Merci pour votre accueil. J'aimerais aussi vous encourager ce matin à accueillir les personnes profondément blessées par la vie. Avant de plonger dans notre texte ce matin, je tiens à vous prévenir que le sujet que nous allons aborder est particulièrement sensible. L'histoire que nous allons entendre parle de violence, elle parle d'abus, elle parle de blessures profondes. Ce sont des réalités qui touchent parfois nos vies. Même quand elles sont invisibles, quand elles sont tues. Et si vous avez vécu des expériences douloureuses, des abus, des traumatismes, je veux que vous sachiez que vous êtes en lieu sûr, aujourd'hui, ici, ce matin. Cette prédication s'appelle « Tamar, les traumas cachés que Dieu voit ». Elle n'a pas pour but de raviver une douleur, mais de reconnaître la réalité de ses souffrances. De vous dire que Dieu voit vos blessures cachées et de vous montrer que vous n'êtes pas seul. Je vous invite à écouter avec prudence, à prendre soin de vous et à laisser le Saint-Esprit vous accompagner dans ce moment. Et si vous en ressentez le besoin à un moment donné, n'hésitez pas à vous retirer un moment ou à parler avec une personne de confiance. Nous sommes dans un endroit sûr. C'est maintenant le cœur averti que nous écoutons la parole de Dieu. Je lis donc dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 13, les versets 1 à 22. Absalom, un fils de David, avait une sœur qui était très belle et qui se nommait Tamar. Amnon, un autre fils du roi David, en tomba passionnément amoureux. Il se rongeait tant à propos de sa demi-sœur qu'il s'en rendait malade, car elle était vierge et lui semblait impossible de l'approcher. Amnon avait aussi un ami nommé Jonadab, un fils de Shiméa, le frère de David. C'était un homme très astucieux. Il demanda à Amnon, « Fils du roi, pourquoi es-tu si déprimé? Chaque matin, tu parais l'être davantage. Ne veux-tu pas m'en dire la cause ?» Amnon lui répondit, « Je suis amoureux de Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Jonadab lui dit alors, « Mets-toi au lit et fais comme si tu étais malade. Quand ton père viendra te voir, tu dis-lui, « Permets à ma sœur Tamar de venir me faire à manger, qu'elle prépare le repas sous mes yeux, afin que je la voie faire, puis je mangerai de sa main. » Amnon se mit donc au lit et fit semblant d'être malade. Le roi vint le voir et Amnon lui dit « Fais venir ma sœur Tamar pour qu'elle me prépare deux galettes sous mes yeux et je les mangerai de sa main. » David envoya dire à Tamar dans son appartement « Va chez ton frère Amnon et prépare-lui son repas. » Tamar se rendit donc chez son frère Amnon et le trouva couché. Elle prépara de la pâte et la pétrit, puis confectionna des galettes devant lui et les fit cuire. Ensuite, elle prit la poêle et lui en servit le contenu devant lui. Mais il refusa d'en manger et dit « Fais sortir tout le monde d'ici !» Tous se retirèrent. Alors il demanda à Tamar « Apporte-moi ces galettes dans ma chambre pour que je les mange de ta main. » Tamar prit les galettes qu'elle avait faites et les apporta à son frère Amnon dans sa chambre. Au moment où elle les lui présentait, il l'empoigna et lui dit « Viens, couche avec moi, ma sœur !» Mais elle s'écria « Non, mon frère, ne me fais pas violence. Cela ne se fait pas en Israël. Ne commets pas une telle infamie. Après cela, où irais-je porter ma honte? Et toi, tu serais considéré comme un individu méprisable dans notre peuple. Pourquoi ne parles-tu pas au roi? Il ne refusera pas de me donner à toi. » Mais il ne voulut rien entendre, et comme il était plus fort qu'elle, il lui fit violence et coucha avec elle. Après cela, il conçut pour elle une forte aversion, plus violente que la passion qu'il avait éprouvée pour elle. Tout à coup, il lui ordonna « Lève-toi, va-t'en !»« Non, lui dit-elle, en me chassant, tu commettrais un crime encore pire que le mal que tu m'as déjà fait. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le domestique qui était à son service et lui ordonna Débarrassez-moi de cette fille, jetez-la dehors et verrouillez la porte derrière elle. Elle portait jusque-là une longue robe multicolore, car c'était autrefois la tenue des princesses aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le domestique la mit dehors et verrouilla la porte derrière elle. Alors Tamar répandit de la cendre sur sa tête. Elle déchira sa longue robe, se prit à deux mains la tête, puis elle partit en poussant des cris. Son frère Absalom lui demanda « Ton frère Amnon t'a-t-il fait violence ?»« Maintenant, ma sœur, n'en parle pas, c'est ton frère, et ne prends pas la chose trop à cœur. » Dès lors, Tamar alla demeurer dans la maison d'Absalom, comme une femme abandonnée. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé, et il en fut très irrité. Quant à Absalom, il n'adressait plus la parole à Amnon, ni en bien, ni en mal, car il l'avait prise en haine à cause du viol de sa sœur Tamar. Prions l'Éternel. Éternel, nous venons devant toi avec beaucoup d'humilité. Tu connais les douleurs cachées, les blessures que nous portons en silence, et rien n'échappe à ton regard. Alors que nous ouvrons ta parole aujourd'hui, nous te demandons de disposer nos cœurs à entendre ce que tu veux nous dire. Éclaire nos pensées par ton Esprit Saint et fais-nous comprendre la vérité de ta parole. Viens nous consoler là où nous sommes blessés, nous fortifier là où nous sommes faibles et nous conduire dans le chemin de la vérité. Donne-nous de recevoir cet enseignement avec douceur et sans dureté ni jugement. Nous te remettons ce moment avec confiance et nous te prions de faire agir ta parole dans nos vies. Nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vivre une douleur que personne ne semblait voir? Un chagrin, une blessure que vous avez portée en silence parce que personne ne semblait prêt à l'entendre? Peut-être que vous avez connu des moments où vos cris sont restés étouffés, où vous vous êtes senti seul face à l'injustice. Aujourd'hui, nous écoutons une histoire vieille de plusieurs milliers d'années. Et pourtant, cette histoire rejoint nos réalités les plus actuelles et les plus intimes. C'est l'histoire de Tamar, une femme de la Bible, prise au piège de la trahison, blessée par le silence et rejetée par les siens. Dans ce récit, nous allons suivre pas à pas le chemin douloureux qu'elle traverse, un parcours en trois étapes, tragique et malheureusement familière à beaucoup d'entre nous. Tamar est d'abord piégée, ensuite effondrée et enfin abandonnée. Cette histoire, c'est le reflet des traumas que beaucoup portent encore en eux, des blessures que notre entourage, parfois même l'Église, a du mal à reconnaître pleinement. Mais il y a une différence essentielle. Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Il entend les cris étouffés, il ne détourne pas le regard. Alors entrons dans ce texte avec un cœur ouvert pour écouter, pour comprendre, peut-être aussi pour commencer à guérir. Parce que ce que Tamar a vécu, Dieu ne l'a pas oublié. Et il n'oublie pas non plus la douleur que vous portez aujourd'hui. Laissons cette promesse nous accompagner tout au long de l'histoire de Tamar. Cette histoire s'ouvre au verset 1 à 14 sur le drame d'une femme piégée. Tamar, princesse d'Israël, est manipulée, trahie par sa propre famille. Une tragédie qui révèle toute la déchéance morale qui se cache derrière les murs du palais. En réalité, tout a commencé bien avant ces premiers versets, quand le grand roi David a fait mourir Uri pour prendre sa femme Bathsheba. À ce moment-là, David n'a pas seulement détruit la vie d'un ami fidèle, il a aussi brouillé la notion de mal et de bien dans sa propre maison. Il a banalisé la violence au point qu'elle a fini par paraître normale à ses enfants. Et maintenant, sa famille s'apprête à se déchirer. Et voilà qui devrait nous inciter à être des modèles d'amour et de foi pour nos enfants. Agir de manière juste, c'est leur apprendre à respecter les uns les autres. Et c'est aussi, peut-être, la meilleure manière de protéger nos familles. Malheureusement, David n'a pas su le faire. Il a montré le mauvais exemple et Tamar en sera la première victime. Tamar est la fille du roi David. Elle vit avec les autres femmes dans un quartier reculé du palais. C'est une jeune femme innocente et pleine de bonté. Mais elle est aussi d'une grande beauté. Et cette grande beauté attire un jour le regard de son demi-frère Amnon. Le prince héritier se met à la désirer tellement fort qu'il en devient malade. Il ne supporte plus de ne pas pouvoir l'approcher. Alors il se tourne vers son cousin Yonadab. Après tout, quoi de plus normal pour un jeune homme que de demander quelques conseils de séduction à un ami? Yonadab comprend bien vite la situation. Et comme c'est un homme malin, il l'échafaude un plan avec son cousin. « Fais semblant d'être malade. Quand ton père viendra te voir, demande-lui d'envoyer Tamar pour te préparer un repas. Et comme ça, tu pourras passer un bon moment avec elle. » Le piège est désormais tendu. Amnon n'hésite pas un seul instant, il joue la comédie. Il manipule son père pour faire venir sa sœur. Tamar, de son côté, elle ne se doute de rien. Elle est toute joyeuse à l'idée de préparer un repas pour son frère malade. Elle pétrit la pâte, elle façonne les galettes, elle les fait cuire, puis elle les apporte à Amnon. Mais le prince ne mange pas. Il leur renvoie ses serviteurs et se tourne vers sa sœur. « Apporte-moi le repas dans ma chambre. » Tamar suit son frère dans la chambre. Les portes se ferment, le silence s'installe, l'isolement est complet. À cet instant, le piège se referme. Amnon se jette sur Tamar. La jeune femme est stupéfaite. Elle tente aussitôt de le raisonner. « Mais arrête, tu es malade !»« Ça ne se fait pas !»« Je t'en supplie, ne désobéis pas à Dieu. Tu vas me faire du mal et tu vas encore plus te faire du mal à toi-même. » Mais Amnon n'écoute pas. Tamar tente alors le tout pour le tout. « Pitié, mon frère ! Faisons au moins les choses dans l'ordre. Va parler au roi. Il ne s'opposera pas à notre mariage. » Alors à ce stade de la situation, je ne pense plus que Tamar soit sincère. Je crois qu'elle cherche juste à gagner du temps dans l'espoir de pouvoir s'échapper. Mais Amnon ne veut rien entendre. Son désir a étouffé sa conscience, sa compassion, sa crainte de Dieu. Le piège s'est refermé et Tamar, impuissante, est agressée. J'aimerais m'arrêter quelques instants. Parce qu'il y a peut-être parmi nous des personnes qui portent encore la honte de ce qu'elles ont subi. Peut-être que vous vous dites, j'aurais dû le voir venir, j'aurais dû comprendre, j'aurais dû partir plus tôt. Si c'est votre cas, je veux vous dire ceci. Regardez Tamar, elle n'a pas mal agi. Elle n'a pas cherché ce qui lui est arrivé. Elle a simplement été piégée par quelqu'un en qui elle avait confiance. Et c'est vrai dans toutes les formes d'abus, que ce soit des abus d'ordre physique, émotionnel, spirituel. Faire confiance à son conjoint, à ses parents, à ses amis, à son passe-neur, ce n'est pas une faute. Le problème, ce n'est pas de croire au bien. Le problème, c'est qu'une autre personne a utilisé cette confiance pour nous faire du mal. Alors si quelqu'un vous a forcé à faire quelque chose que vous ne vouliez pas faire, ce n'est pas de votre faute. Si quelqu'un a utilisé votre affection, si quelqu'un a utilisé son affection, sa position, son argent pour vous contrôler, ce n'est pas vous qui avez abusé de la relation. C'est cette personne qui a trahi ce que cette relation aurait dû être. Tamar pensait simplement apporter un repas à son frère malade. Rien d'autre. Elle pensait rendre service. Elle pensait être en sécurité dans sa propre famille, auprès des siens. Et pourtant, quelqu'un a profité de sa confiance. Il faut le dire clairement, la honte appartient à celui qui abuse, à celui qui agresse, pas à celui qui est agressé. Et cela nous appelle maintenant à nous examiner nous-mêmes, parce que si Dieu condamne avec autant de force les agressions, les abus, c'est aussi pour nous apprendre à aimer autrement, dans nos familles, dans l'Église. L'Éternel nous dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Éphésiens 5, verset 25. Plus loin, il dit aussi, « Parents, aimez vos enfants, élevez-les avec patience, protégez-les, faites-les grandir, ne les écrasez pas. » Aimons nos prochains, respectons leur liberté, leur dignité, écoutons leurs limites. Le véritable amour ne cherche pas à prendre, il cherche à servir. Et si nous voyons un frère ou une sœur qui se laisse entraîner par de mauvais désirs, par de mauvaises passions, comme c'est le cas d'Amnon avec sa demi-sœur, ne faisons pas comme Jonadab. Ne l'encourageons pas à pécher. Appelons-le à combattre ce désir. Redressons-le avec un esprit de douceur, nous dit Paul dans Galates 6, verset 1. Dire la vérité avec tendresse, corriger l'autre avec bienveillance, ce n'est pas manquer d'amour. C'est aimer assez pour ne pas laisser quelqu'un courir vers sa propre chute et faire du mal à d'autres personnes. Mais revenons maintenant à Tamar. Jusqu'ici, nous avons surtout regardé Amnon et le mal qu'il a commis. Le récit nous oblige désormais à tourner les yeux vers celle qui emporte désormais les conséquences et les blessures. Parce qu'un abus ne s'arrête jamais au moment où il est commis. Il laisse derrière lui des blessures profondes, une dignité brisée, une vie complètement bouleversée. Les versets qui suivent ne racontent plus seulement le péché d'un homme, ils racontent la souffrance d'une femme. Dans les versets 15 à 19, c'est maintenant une femme effondrée que nous allons rencontrer. La Bible ne détourne pas les yeux des victimes. Elle leur donne un visage, une voix, une histoire. Elle nous invite à nous arrêter auprès de Tamar. Non pas pour satisfaire une curiosité malsaine, mais pour apprendre à pleurer avec celle qui pleure. Le récit prend une tournure aussi brutale qu'inattendue. À peine Amnon a-t-il obtenu ce qu'il désirait que ses sentiments changent complètement. Le texte nous dit qu'il éprouve désormais pour Tamar une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Quelle ironie tragique. Celui qui disait quelques instants plus tôt être malade d'amour ne supporte déjà plus la présence de celle qu'il prétendait aimer. Et son visage véritable apparaît enfin. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la convoitise, quelque chose qui s'est consumé aussitôt qu'Amnon a obtenu ce qu'il voulait. Et comme si la violence ne suffisait pas, Amnon ajoute une nouvelle humiliation à Tamar. Il lui ordonne « Lève-toi, va-t'en !» Tamar le supplie de ne pas agir ainsi. Elle sait que le chasser maintenant ne ferait qu'aggraver son malheur. Mais Amnon reste insensible. Il appelle un serviteur et lui lance cette parole « Chassez-moi celle-là !» Remarquez bien son langage. Il ne dit plus « chasse Tamar !» Il dit « chasse cette fille !» Tamar n'est déjà plus une personne à ses yeux. Elle est devenue un objet méprisable dont il veut se débarrasser. Voilà jusqu'où le péché conduit lorsqu'il transforme une personne en simple moyen de satisfaire nos propres désirs. Et puis vient une scène d'une immense tristesse. Tamar s'effondre. Tamar possède une tunique multicolore. Cette tunique, c'est le vêtement des filles vierges du roi, des princesses royales qui ne sont pas mariées. Elle exprime toute son identité de personne précieuse, toute sa dignité, sa place dans la famille royale. Tamar la déchire. Et en la déchirant, elle ne détruit pas seulement un vêtement, elle exprime le sentiment que toute sa vie vient de voler en éclats. Ce qui la définissait jusque-là semble désormais irrémédiablement brisé. Elle répand de la cendre sur sa tête. À l'époque, mettre de la cendre sur sa tête, c'est un signe de deuil, un signe de détresse profonde, d'une douleur que les mots ne suffisent plus à exprimer. Tamar se comporte déjà comme quelqu'un qui pleure une mort. Et d'une certaine manière, c'est bien ce qu'elle est en train de vivre. Une partie d'elle vient d'être arrachée. Elle se sent mourir. Et Tamar pousse de grands cris. Elle ne parvient plus à garder sa souffrance enfermée au fond d'elle-même. Elle pleure, elle crie, et son corps lui-même exprime ce que son corps lui-même ne peut plus porter. Elle somatise. Aujourd'hui, on dirait qu'elle est complètement traumatisée par l'expérience qu'elle vient de vivre. Son univers entier vient de s'effondrer. Les repères qui lui donnaient son sentiment de sécurité ont complètement volé en éclats. Ils ont disparu. Son propre frère l'a trahi. Sa maison n'est plus un refuge. Son identité est atteinte. Et lorsqu'une personne subit un traumatisme, il n'est pas rare qu'elle se sente complètement détachée d'elle-même. Incapable de comprendre ce qui vient de se passer, envahie par une douleur qui dépasse les mots. C'est un choc qui dépasse tout l'être. Et cela mérite d'être entendu avec beaucoup de délicatesse. Parce que les conséquences d'un traumatisme qu'il résulte d'une agression physique, émotionnelle, spirituelle, ne s'arrêtent pas au moment où l'événement se produit. Elles peuvent apparaître après longtemps. Certaines personnes vivent dans une grande confusion pendant des semaines, des mois. D'autres se réfugient dans le silence. D'autres encore ressentent une colère qu'elles n'arrivent pas à exprimer. Qu'elle retourne même contre elle-même. Chacun réagit différemment. Il n'existe pas une seule manière de souffrir. Et c'est pourquoi nous devons résister à la tentation de juger les victimes. Certains se demandent, mais pourquoi est-ce qu'elle n'en a pas parlé plus tôt? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour elle de tourner la page? Pourquoi est-ce qu'elle réagit encore ainsi des années plus tard? Mais ces questions révèlent souvent que nous ne comprenons pas ce qu'est un vrai traumatisme, une vraie blessure profonde qui détruit l'identité. À l'image de Tamar, les victimes ont besoin qu'on leur laisse la place d'exprimer leur douleur. Elles n'ont pas d'abord besoin qu'on leur explique ce qu'elles devraient sentir, elles ont besoin d'être écoutées sans être interrompues, accueillies. Sans être soupçonné de mal, accompagné avec bienveillance. Leurs larmes ne sont pas un manque de foi, leur silence n'est pas forcément un refus d'avancer. Leur détresse est souvent le signe d'une blessure bien plus profonde que ce que nous pouvons imaginer. Le récit nous demande donc de ralentir, de ne pas détourner les yeux, de rester quelques instants près de Tamar. L'épreuve de Tamar n'est pas encore terminée. Après avoir été piégée, profondément brisée jusqu'à s'effondrer, elle va maintenant découvrir une souffrance plus silencieuse encore, celle de l'abandon. Lorsqu'une personne traverse un traumatisme, elle a plus que jamais des besoins d'être entourée, d'être écoutée, d'être protégée. Et pourtant, dans les versets qui suivent, ceux qui auraient dû prendre sa défense vont chacun à leur manière lui faire défaut. Dans les versets 20 à 22, c'est une femme abandonnée que nous rencontrons. Voilà que son frère Absalom lui demande si son frère Amnon l'a bien agressé. Tamar lui répond que oui. Et comment Amnon réagit-il? Tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas trop la chose à cœur. Absalom ne veut pas que sa sœur parle. Il veut que le secret reste caché dans la famille. Il ne veut pas que sa famille soit humiliée devant tout Israël, devant la terre entière. Il préfère que cela reste caché. Alors, il invite Tamar à rester dans sa maison. Et Tamar, elle reste dans sa chambre, à l'abri des regards. Plus personne ne peut la voir, plus personne ne peut voir sa souffrance, ne peut la réconforter. Elle est complètement seule, abandonnée, à l'écart dans la maison d'Absalom. Après Absalom, c'est le roi David qui apprend tout ce qui s'est passé. Et quand il apprend cela, David est très en colère. Mais regardez bien, il ne fait rien. Il reste inactif. Pourquoi? Les manuscrits plus récents de la Bible, notamment en grec, disent que David ne voulait pas faire de tort à Amnon. Il aimait trop Amnon parce que c'était son fils aîné et il ne voulait pas le punir. David préfère ne pas punir Amnon pour le mal qu'il a fait. Et de cette manière-là, il montre encore que son amour pour Tamar est bien trop limité, bien trop imparfait. Il préfère aimer Amnon, son fils aîné, le prince héritier, plutôt que Tamar, sa fille bien-aimée, et la victime. David ne fait rien. Alors Absalom se met en colère. Il n'adresse plus la parole, ni en bien ni en mal. Il commence à haïr, à détester son frère Amnon, à cause du viol de sa sœur Tamar. Et à partir de ce moment-là, c'est toute la famille de David qui va commencer à se déchirer, qui va se diviser les uns les autres jusqu'à s'entretuer. Le silence d'Absalom, le silence de David, voilà quelque chose maintenant qui devrait nous mettre en colère, qui devrait profondément nous révolter. Et si cela devrait nous révolter, ça l'est encore davantage lorsqu'on regarde les deux chapitres précédents. Dans les deux chapitres précédents, David a assassiné Uri pour prendre sa femme Bathsheba. Et pourtant, Dieu lui a pardonné. Autrement dit, Dieu a pardonné un agresseur. Dieu restaure un agresseur. Mais maintenant, Dieu ne peut même pas restaurer une victime. Nous avons bien raison de nous révolter à la fin de ce texte, à la fin de ce récit. Et je crois que c'est exactement ce que l'auteur de ce récit veut nous faire ressentir. Il veut que nous puissions crier à Dieu, que nous lui disions « Éternel, ne vois-tu pas ce qu'il se passe? Que fais-tu? Que fais-tu quand il y a des agressions? Que fais-tu quand il y a des abus dans la famille, dans ton église? » Mes chers amis, la réponse à cette question ne se trouve pas dans ce récit. La réponse à cette question se trouve dans le fait même que ce récit est dans la Bible. Parce que ce récit nous montre que Dieu voit. Dieu vous voit. Dieu connaît votre histoire et Dieu n'est pas indifférent. Dans la famille de David, de ce roi encore si injuste, il a fait naître un roi plus juste et plus grand que David. Et ce roi, c'est Jésus-Christ. Comme le dit la Bible, et Jésus a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour soigner ceux qui ont été agressés dans leur famille, dans la famille du grand roi, l'Église. Et ce que je peux vous dire, tout d'abord, c'est que Jésus compatit avec vous qui souffrez. Parce que d'une certaine manière, il est passé par le même chemin. Tamar est tombée dans le piège d'un homme qui lui montrait des signes d'amour. Et Jésus est tombé dans le piège de Judas, son disciple, quelqu'un qui l'a trahi en l'embrassant. Et Jésus a souffert de cet abus jusqu'à aller sur la croix, jusqu'à mourir. Imaginez la souffrance, la douleur qu'il a vécue. Oui, aujourd'hui, je peux vous le dire, Jésus peut compatir avec vous. Et puis il est ressuscité, il est monté au ciel et il nous donne un esprit nouveau. Cet esprit nous dit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Là où notre identité est brisée, Jésus nous en donne une nouvelle. Là où notre dignité est blessée, Jésus vient la soigner. Il vient la guérir. Jésus voit vos blessures. Jésus les entend. L'Église aussi devrait les voir et les entendre. L'Église devrait accueillir toutes les personnes qui sont victimes d'abus, d'agressions, de divers genres. Elle devrait les accompagner. Elle devrait aussi rendre justice et punir ceux qui font le mal. Malheureusement, nous ressemblons encore trop souvent à Absalom, à David. Trop souvent, nous préférons cacher les abus dans nos familles, dans l'Église. Nous préférons ne pas en parler parce que ça détruit la réputation de la famille, ça détruit la réputation de l'Église. Mais de cette manière-là, nous blessons encore davantage que nous guérissons. Apprenons à nous comporter de la même manière que notre Seigneur. Soyons attentifs, accueillons, accompagnons les personnes victimes d'abus. Bien sûr, notre accompagnement sera toujours imparfait. Et c'est pourquoi nous nous appuyons sur cette promesse. Et vous, qui avez été agressé, vous pouvez aussi vous appuyer sur cette promesse, celle que Jésus vient bientôt et qu'il essuiera toutes larmes de vos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que les premières choses auront disparu. Apocalypse 21, verset 4. Vous connaîtrez une paix profonde et sans fin lorsque Jésus reviendra. Jésus viendra pour rétablir la justice, pour punir ceux qui font le mal et pour apporter une paix profonde, grande, glorieuse, éternelle à ceux qui souffrent aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vivre une douleur que personne ne semblait voir? Un chagrin, une blessure que vous avez portée en silence parce que personne ne semblait prêt à l'entendre? Peut-être que vous avez connu des moments où vos cris sont restés étouffés, où vous vous êtes senti seul face à l'injustice. Aujourd'hui, je veux vous dire que Jésus vous voit, il vous entend et il veut votre bien. Alors confiez-vous à lui dans la prière. Laissez-le vous parler, vous réconforter. Laissez-vous restaurer par lui. Et son esprit, petit à petit, mois après mois, jusqu'à son retour, vous guérira. Amen. Je vous invite maintenant à une petite prière. Et cette prière sera inspirée. Éternel notre Dieu, nous nous joignons à la parole de ceux qui souffrent. Et avec eux, nous nous demandons, Seigneur, est-ce que tu vois vraiment ce qui se passe dans ce monde? Pourquoi est-ce que tu te caches quand il y a tant d'abus dans le monde et dans l'Église? Le méchant ne se gêne pas quand il s'agit de faire souffrir les malheureux. Il est orgueilleux. Il pense être au-dessus de tout. Il ne croit même pas que tu vas le juger. Sa bouche est pleine de tromperies. Il nous fait croire qu'il nous aime. Mais dans le silence, il agresse. Il fait preuve de violence dans l'isolement. Il est convaincu que personne ne saura ce qu'il fait. Il pense que tu oublies. Alors lève-toi, Éternel. Nous t'en supplions, fais quelque chose. N'oublie pas les personnes malheureuses et sans défense. Éternel, tu vois ceux qui souffrent, ceux qui sont malheureux. Ils sont entre tes mains. Et c'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Alors détruis maintenant le pouvoir de l'homme mauvais. Punis-le et qu'il disparaisse à tes yeux. Oui, Éternel, tu es notre roi. Tu es notre roi pour toujours. Et ceux qui font le mal ne font pas partie de ton Église. Maintenant, c'est toi qui nous entends. Tu entends ceux qui souffrent. Tu les réconfortes. Tu affermis leur foi. Et tu les écoutes pour leur rendre justice. C'est pourquoi nous te confions toutes ces situations avec confiance dans le nom de Jésus-Christ. Amen.